Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi le journal en français de KBS World Radio. Voici tout de suite les principaux titres de ce vendredi 11 juillet.
Les chefs d'état-major sud-coréens, américains et japonais se mettent d'accord sur le développement de la sécurité dans la région. Yoon refuse à nouveau de comparaître devant l'équipe du procureur spécial. Et enfin, accord sur le salaire horaire minimum pour 2026.
La 22e réunion des chefs d'état-major des armées de la Corée du Sud, des États-Unis et du Japon s'est tenue aujourd'hui à Séoul. L'occasion pour Kim Myung-soo, Dan Kane et Yoshihide Yoshida d'évaluer l'environnement sécuritaire de la région, plus particulièrement les menaces militaires de Pyongyang, ainsi que d'échanger sur les meilleurs moyens d'affermir leur coopération sécuritaire. En préambule, le Sud-Coréen s'est réjoui du fait que la conférence ait lieu à Séoul, selon lui. Cela montre à la région Indo-Pacifique comme au monde entier que cette collaboration trilatérale s'opère de manière stable. Selon lui, il est primordial d'en maintenir, voire d'en développer la dynamique face à la hausse des menaces nucléaires et balistiques du régime de Kim Jong-un, ainsi qu'aux défis sécuritaires permanents dans la région. Kim en a profité pour rappeler que pour la première fois en 15 ans, un chef d'état-major des armées du Japon fait un déplacement au sud du 38e parallèle, avant d'ajouter que son enjeu est que la coopération sécuritaire entre les trois partenaires devient plus mature et solide. De son côté, le général américain a mentionné les exercices militaires combinés Freedom Edge, soulignant que cette manœuvre contribuera à la sécurité et la paix, non seulement dans les trois pays, mais aussi dans le monde entier. Kane a indiqué que la Corée du Nord et la Chine accélèrent le renforcement de leur puissance militaire à un rythme inédit. Pour lui, Washington doit donc rétablir rapidement sa dissuasion et travailler pour cela main dans la main avec ses deux principaux alliés asiatiques. Enfin, Yoshida a détaillé le but de sa présence. Tokyo souhaite institutionnaliser la coopération trilatérale sans être affectée par la situation politique, la solidifier afin de renforcer la dissuasion face au Royaume ermite et d'assurer la paix et la stabilité dans l'Indo-Pacifique sur fond de menaces nord-coréennes.
En Malaisie, les chefs de la diplomatie des États membres du Forum régional de l'ASEAN sur la sécurité se sont réunis hier et aujourd'hui à Kuala Lumpur. Séoul y a été représenté par son premier vice-ministre des Affaires étrangères Park Yoon-joo, son ministre n'ayant pas encore été officiellement nommé en raison de la procédure de son audition de confirmation au Parlement. En marge, la Corée du Sud, les États-Unis et le Japon ont organisé aujourd'hui une nouvelle rencontre trilatérale. Park a ainsi échangé avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio et son homologue nippon Takeshi Iwaya. Les trois hauts diplomates auraient alors souligné l'importance de la coopération entre leurs pays et échangé sur les préoccupations régionales et mondiales, plus précisément sur le dossier nord-coréen. Par ailleurs, le sud-coréen en aurait profité pour transmettre à Rubio la position de son gouvernement à l'égard des négociations tarifaires en cours avec Washington.
Au lendemain de sa nouvelle mise en détention provisoire, Yoon Sang-yeol devait à nouveau être entendu par l'équipe de procureur spécial Cho Eun-sok qui avait requis un mandat d'arrêt. Celle-ci mène les investigations sur les accusations d'insurrection et d'incitation aux attaques nord-coréennes contre le Sud le visant. L'ex-président de la République avait été sommé de comparaître devant les enquêteurs ce vendredi à 14h, mais il a refusé d'obtempérer. Ses avocats ont annoncé qu'il avait transmis dans la matinée la justice justification écrite de son absence par le biais de l'autorité pénitentiaire. Yoon y invoque une raison de santé, comme c'était le cas hier pour l'audience de son procès pénal pour insurrection. Cho a aussitôt demandé au centre de détention de Séoul, où est incarcéré l'ancien chef de l'État, de l'informer s'il avait décelé un problème de santé pouvant empêcher son détenu de se rendre à la convocation. Son équipe a annoncé à la presse qu'après cela, elle allait envisager les prochaines mesures à prendre.
Le salaire minimum horaire pour 2026 a été fixé jeudi à 10 320 won, soit une augmentation de 2,9% par rapport au montant actuel. Il s'agit de la 8e décision prise par accord entre les partenaires sociaux depuis l'instauration du système du SMIC en 1988 et de la première depuis 2008. Cette année, les négociations ont été difficiles en raison du grand écart entre les positions des syndicats et du patronat. Les premiers avaient initialement réclamé un salaire horaire de 11 500 won, soit 6,16 euros. Une hausse de 14,7% avant de descendre mardi à 10 900 won. Le second avait commencé par demander de rester au niveau actuel, à savoir 10 030 won, avant de monter jusqu'à 10 180 won. Comme les positions restaient trop éloignées, les membres représentant l'intérêt public de la commission du salaire minimum ont proposé une fourchette d'augmentation comprise entre 1,8 et 4,1%. Les syndicats s'y sont vivement opposés. Si les représentants de la Confédération coréenne des syndicats KCTU ont quitté la table des négociations en signe de protestation, ceux de la Fédération nationale des syndicats coréens, FKTU, y sont restés pour finir par accepter 10 320 won après avoir présenté de nouveaux amendements. La KCTU a vivement dénoncé un accord qui ne reflète que les revendications patronales. La FKTU a également exprimé ses regrets. De leur côté, les employeurs ont expliqué que malgré leur demande de gel initiale, ils ont finalement accepté cette hausse après moult réflexions compte tenu de la mauvaise conjoncture économique et de la récession de la demande intérieure.
Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio.
Lee Jae-myung a appelé à une réponse rigoureuse face à la vague de chaleur qui frappe le pays. Lors d'une réunion avec ses principaux conseillers hier, il a exhorté chaque ministère à déployer toutes les ressources administratives pour protéger la santé et les biens des citoyens. Le président de la République a particulièrement souligné la mise en œuvre rapide des mesures pour soutenir les populations vulnérables, en s'assurant notamment du bon fonctionnement des refuges contre la chaleur. Le chef de l'État a par ailleurs réclamé la création d'une équipe d'intervention en coordination avec le secteur privé pour répondre efficacement aux situations d'urgence liées à la canicule. Concernant les récents accidents de travail, il a ordonné des contrôles sans préavis sur les sites industriels à risque, ainsi qu'une augmentation significative du nombre d'inspecteurs du travail.
Plus de 6 Sud-Coréens sur 10 jugent positif le bilan du président de la République, Lee Jae-myung. C'est ce que révèle un sondage mené par Gallup Corée entre le 8 et le 10 juillet auprès de 1002 adultes. Son taux de soutien a baissé de 2 points par rapport à la semaine précédente. En revanche, 23% des sondés estiment que le chef de l'État fait mal son travail et 14% n'ont pas exprimé d'opinion. Concernant les partis politiques, le Minju, la formation présidentielle, a enregistré une baisse de 3 points avec 43%. Le parti du pouvoir du peuple a recueilli 19%, reculant lui aussi de 3 points. Il s'agit de son plus bas niveau depuis novembre 2020 dans les enquêtes du cabinet. Le sondage a été réalisé par téléphone avec un niveau de confiance de 95% et une marge d'erreur de 3,1 points.
Et pour terminer, alors que Pyongyang continue de démanteler unilatéralement des installations sud-coréennes dans la zone touristique du Mongmgang, Séoul a appelé à un règlement de la situation par le dialogue intercoréen. La porte-parole adjointe du ministère de la Réunification, Chang Yun-jong, a déclaré ce matin que la Corée du Nord ne devait pas prendre des mesures portant atteinte aux droits de propriété du Sud. Le pays communiste a déjà démoli ou est en train de démolir la plupart des infrastructures appartenant à des entreprises ou au gouvernement sud-coréen. En avril 2024, la caserne de pompiers a été entièrement détruite, tandis que le centre de retrouvailles pour les familles séparées est en cours de démantèlement. Cependant, cette fois-ci, le ministère sud-coréen n'a pas abordé la question des responsabilités ni évoqué d'éventuelles mesures de réponse, contrairement à sa position de février dernier lorsque le royaume ermite avait entamé la destruction du centre de retrouvailles.
C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Roy et Mathis Morigan. Merci de votre fidélité et bon week-end à l'écoute de KBS World Radio.